Et l'auteur de Jean Zay, La République assassinée, pour Gérard Boulanger, Jean Zay, c'est une seconde affaire Dreyfus.
Gérard Boulanger ?
Oui.
Oui, bonjour. Vous avez entrepris des recherches importantes sur Jean Zay, qui vous ont conduit à écrire un livre qui s'intitule « L'affaire Jean Zay, la République assassinée ». D'abord, en lisant votre livre, on est étonné de voir tout ce qu'a fait Jean Zay en seulement 3 ans.
C'est sans doute un des ministres de la Troisième République qui a l'œuvre la plus extraordinaire, la plus complète et la plus étonnante.
Qui a tué Jean Zay ?
Alors, moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir à quel point l'extrême droite maurrassienne, que j'appelle nationale catholique, parce qu'elle est véritablement à la jonction de cet imaginaire nationaliste et de l'imaginaire catholique, et notamment parce qu'on l'oppose à Jeanne d'Arc dans la ville d'Orléans, cette extrême droite, en fait, c'est l'héritière de l'affaire Dreyfus. L'affaire Jean Zay, pour moi, c'est une affaire Dreyfus silencieuse. Et on est bien dans le climat de l'affaire Dreyfus, effectivement. Parce que quand il a 16 ans, ben, c'est le moment où Jeanne d'Arc est béatifiée. Et la ville d'Orléans y a joué un très grand rôle. Mais aussi parce que, en fait, l'extrême droite maurrassienne ne le combat pas en disant « On ne vous aime pas parce que vous êtes un représentant de cette république égalitaire qu'on déteste. » Mais on vous interdit de parler parce que vous êtes juif. Il y a donc un déplacement du discours politique, de la critique politique proprement dite, à l'appel à un imaginaire qui laisse sans voix, qui laisse sans réponse. D'une certaine manière, il n'est pas dans le judaïsme au sens où il n'est pas dans la religion juive. Est-ce qu'il est dans la judéité au sens où est-ce qu'il se revendiquerait lui-même du fait d'être juif ? On n'en sait rien parce qu'il n'en dit rien. Et donc, il est dans une position où, en fait, comment voulez-vous répondre à des choses comme ça ? Il n'y a pas de réponse. Bon, moi, j'ai écrit ce livre parce que je voulais réparer une injustice mémorielle ou tenter de le faire. Mais en même temps, j'étais sans arrêt confronté à des analogies avec des situations actuelles, quoi. Le parallèle, par exemple, avec Mélenchon me semble absolument évident. Les techniques de déconsidération, non pas d'un discours politique, mais d'un être en soi. Hein. Il est comme ça, donc il est forcément mauvais, donc voilà. Comment répondre à ce genre de choses ? C'est très très compliqué pour un homme politique de répondre à ce genre de choses. Et puis, aussi, je vois bien le discours sur les congés payés, par exemple, au moment du Front Populaire. Mmh. C'est le discours sur les 35 heures, après Martine Aubry, si vous voulez. C'est la même chose. Alors, à l'époque, on disait la paresse ouvrière. Maintenant, on dira, ça déstabilise la compétitivité de nos entreprises, etc. Le langage, c'est terriblement enfoui. Hein. Mmh. On emploie des mots beaucoup moins directement critiquables parce que, bon, on a pu démontrer que ceci ne tenait pas debout. On dira plus la paresse ouvrière. Mais c'est toujours les mêmes idées, c'est toujours sur les mêmes angles.
On n'a pas encore raconté dans quelles conditions est-ce qu'il a été arrêté et mis en prison. On a évoqué tout à l'heure, avec votre naissance, Hélène, le Massilia.
En septembre 39, il démissionne de son poste de ministre. Il n'était pas obligé, hein, comme ministre, il pouvait rester. Mais il dit, par quelques lignes qu'il adresse au président du Conseil, qu'il souhaitait partager le sort de ces jeunes qu'il avait servis pendant toutes ces années. Il part à la guerre, il fait la drôle de guerre. Et puis arrive l'invasion allemande de mai 40. Arrive le 17 juin, il apprend que, alors c'est les journées tragiques de juin, hein, le gouvernement s'est replié à Bordeaux, il apprend que l'Assemblée nationale va se réunir à Bordeaux. Or, il est toujours député. Donc, il pense que son devoir premier, c'est d'aller à cette réunion de l'Assemblée nationale, enfin de la Chambre des députés à l'époque, qui doit prendre des mesures extrêmement importantes, puisque c'est le moment de la défaite, armistice ou pas armistice, etc. Le gouvernement décide le départ de tous ces gens-là en Algérie, en passant par le Maroc, pour continuer la guerre.
À l'époque, l'Algérie, comme le Maroc, étaient encore des colonies françaises. Voilà.
Et il y avait toutes les forces, en effet, de l'empire colonial français. Donc, beaucoup pensaient qu'on pouvait continuer la guerre. Donc voilà, c'est l'idée de ce bateau, le Massilia. Il s'embarque, lui, avec Mendès France, avec Mandel, avec beaucoup de gens, avec beaucoup de militaires. Et là, on voit très bien que Pétain et surtout Laval ont décidé de signer l'armistice. Mmh. Mais il laisse partir ce bateau et transforme cet épisode en piège. C'est-à-dire, pour Vichy, ça va être une occasion de se débarrasser